Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Certains expatriés travaillent dans les chantiers comme ouvriers et d'autres s'adonnent même au petit commerce à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, des petits commerces réservés aux nationaux. Et pourtant, il y a des métiers qui s'y sont réservés exclusivement aux nationaux. Alors comment protéger ces métiers-là hein, parce que ça, certains nationaux s'en plaignent. Hein. Voilà, nous avons des étrangers qui viennent, qui prennent, qui occupent le travail qu'on devait faire ou qui font ce qu'on on est censé faire, et ça nous met en difficulté. Alors, pour en savoir plus, nous recevons Monsieur Ignace Boyan, il est ingénieur, il est secrétaire général de la Fédération des techniciens multisectoriels. Qu'est-ce que cela veut dire, Monsieur Ignace?
D'abord, merci. La fédération...
Technicien multisectoriel, oui. Qu'est-ce que cela veut dire?
Justement, c'est cette précision que je voulais donner.
Allez-y.
La Fédération des techniciens multisectoriels regroupe tout technicien, mais dans l'intervention de leurs activités, vous le retrouverez dans divers secteurs de la vie. Vous avez, par exemple, ils peuvent être dans le domaine de la transformation agroalimentaire, dans la construction, dans la mécanique, dans l'électricité, le froid, la menuiserie, le service, comme dans l'artisanat d'art ou de production. C'est ce qui fait que il y a une pluralité de disciplines, et c'est ça le terme multisectoriel.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui hein, qu'il y a des métiers qui sont réservés aux nationaux et d'autres pas, qui sont réservés, que tout le monde peut exercer?
Oui. Avant d'y aller là-bas, nous allons consulter notre loi fondamentale. Les législateurs, dans notre constitution actuellement en vigueur, dans son chapitre 2 de droits économiques, sociaux et culturels, à l'article 35, il est dit ceci. L'État garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers. Deuxième alinéa, il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par le Congolais et veille à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales. Donc, en lisant cet article, et qui continue, qui dit « La loi fixe les modalités d'exercice de ces droits ». Donc, il est bien entendu que quand vous interprétez cette disposition légale, vous verrez que le petit commerce est une exclusivité de nationaux. Et aussi bien que tout ce qui touche aux aspects de l'artisanat ou de l'art, il est exclusivement un aspect réservé aux Congolais, tout en sachant que l'État garantit le droit à l'initiative, que ce soit pour le Congolais ou pour les étrangers. Mais ici, ce qui est flagrant, c'est le fait que pour certaines activités, vous avez même des expatriés qui viennent dans ces pays qui, lorsqu'ils ont obtenu leur visa dans leur pays d'origine, ils ont eu telle qualité, une qualité supérieure, mais quand ils viennent ici, ils deviennent une main-d'œuvre. Et l'espace de la main-d'œuvre congolaise est tellement envahie.
Mais là, en lisant cet article, vous dites que l'État encourage les nationaux à exercer, mais il n'est pas dit clairement que ces petits métiers sont réservés exclusivement aux nationaux.
Oui, mais ça, c'est la lettre du législateur que nous sommes en train de lire. Mmh. Et en même temps, quand on lit une disposition légale, il y a l'aspect de la pensée et aussi la traduction de cette pensée-là dans les écrits. Et on suppose que si on doit tenir compte de ces petits métiers, comme je dis, si je prends un exemple simple, dans le domaine de la construction, vous avez des maçons. Il est bien entendu que notre pays regorge un nombre très important de maçons et il est très malaisé de voir que cette activité soit exercée par un expatrié. Et on ne peut avoir un expatrié que dans la mesure où le pays manquerait de maçons. Or, en réalité, dans notre pays, nous avons un nombre pléthorique de maçons qui sont qualifiés. Bien sûr, il y a des maçons qualifiés et d'autres qui ne sont pas qualifiés, mais qui sont des maçons. Donc, c'est au niveau où de la qualification.
Donc, vous avez remarqué que dans la plupart des chantiers, par exemple à Kinshasa, les maçons sont des expatriés.
Oui, dans certains chantiers, vous verrez que au lieu de trouver des nationaux pour exécuter ces travaux de maçonnerie, ce sont plus les expatriés. Et cela étonne, et vous verrez que si vous devez faire promener votre micro-baladeur, vous verrez que la situation est excessivement plausible.
Mmh. Mmh. Et pourquoi ceux qui construisent préfèrent prendre les maçons étrangers au lieu de prendre les nationaux ou les fils du pays?
Bon, comme moi je ne suis pas à leur place, mais je dirais tout simplement par analyse, peut-être ils ont besoin d'avoir un travail de qualité qu'ils auraient eu, qu'ils n'auraient pas eu plutôt auprès des nationaux, et pour ça, ils doivent avoir de preuves, mais peut-être c'est un problème tout simplement de complexe. Ils considèrent que l'expatrié ferait mieux que les nationaux. Et pourtant, il y a des immeubles qui ont été construits dans ces pays il y a plusieurs années par des nationaux et qui sont non seulement solides et qui répondent aux normes de construction.
D'accord. Nous avons Yves Chinyama de Kolwezi en ligne. Bonjour Yves.
Bonjour, c'est Steve.
C'est Steve. D'accord. Depuis à Kolwezi, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Steve?
Oui, bonjour à l'invité, bonjour à Jodine Kachama et Radio Capi. Par rapport au thème d'aujourd'hui, j'ai bien suivi l'invité, mais une chose est certaine, notre pays, il y a un problème de vote des lois. Quand on vote des lois ou des dispositions, on n'arrive pas à respecter ça. Je vais faire un tour en arrière ici en Kolwezi, je vais vous dire la réalité que nous traversons ici en Kolwezi. Et comme il vient de dire, la loi réserve certains travaux exclusivement pour les nationaux. Mais ce qui n'est pas le cas ici à Kolwezi, vous allez vous rendre compte, pour ne pas citer les noms, les certaines sous-traitances des KPT, vous trouverez même pour balayer, il n'y a que les expatriés. Donc, ça veut donc dire que notre gouvernement est là pour voter des lois, mais l'applicabilité, ça pose un problème. C'est ça ce que nous fustigeons aussi dans cette ville.
Donc vous dites que là-bas à Kolwezi, dans mon nombre des sociétés minières, les travaux réservés aux nationaux sont confiés aux étrangers.
Sont confiés aux expatriés, bien sûr. Nous travaillons ensemble avec eux, mais leur salaire, si on vous dit le salaire qu'ils touchent, vous pouvez pleurer. Hein. Quelqu'un qui touche le salaire de 20 ou 30 personnes, vraiment, c'est vraiment déplorable pour notre gouvernement.
D'accord. Ilunga, vous êtes aussi à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, Ilunga.
Ilunga.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, l'invité.
Oui, bonjour, Ilunga. On vous écoute.
Bonjour.
Ok, merci, monsieur le journaliste. De tout simplement l'intervention, je n'ai pas la question.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous voulez dire aussi soutenir ce que Steve a dit à Kolwezi, les métiers réservés aux nationaux sont confiés aux expatriés?
C'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème, c'est quoi, monsieur le journaliste? C'est la mauvaise gouvernance qui existe ici au Congo, monsieur le journaliste. Le problème, si nous avions des investisseurs congolais, le problème, c'est l'investisseur qui vient à l'étranger. Quand il vient à l'étranger, là, il a déjà son équipe bien organisée à partir de là qu'il vient. Alors, c'est ça, c'est la mauvaise gouvernance que nous avons ici au Congo. Le problème, encore que, pour réussir ça, il faut d'abord encore lutter contre le tribalisme dans notre pays, monsieur le journaliste.
Alors, vous avez des cas précis à Ilunga, à Kolwezi, par rapport à ces thèmes? Donnez-nous des témoignages précis et concrets.
Les témoignages concrets, nous en avons, mais monsieur le journaliste, c'est très difficile.
Qu'est-ce qui est difficile? Voilà.
Le problème de tribalisme, c'est les journalistes. Si on lutte d'abord contre le tribalisme, là, on aura quand même les métiers des nationaux, mais c'est les généralistes.
Alors, le tribalisme, ça, c'est une autre affaire. Hein. Une autre affaire. Merci, ingénieur Ignace. Qu'est-ce que vous pouvez dire au premier intervenant là?
Oui, à nos deux amis, puisqu'ils sont en Colombie.
Ils sont en Colombie.
Que ce soit Chinyama Steve ou M. Ilunga. Et pour le deuxième, vous sentez qu'il y a un problème d'expression. Mmh. Donc, il n'y a pas de liberté pour s'exprimer. Il a des cas de témoignages, mais...
Mais il ne sait pas les dire.
Oui, oui. Il est totalement bloqué dans son expression. Mais ce que Steve venait de dire, tout ça, concernant la sous-traitance. On accorde plus aux expatriés la sous-traitance, mais vous verrez que dans le pays, il y a de petites et moyennes entreprises qui doivent en fait sous-traiter de grandes entreprises dans leurs différentes activités. Mais il se fait que ces sous-traitances-là, pour les obtenir, il y a un problème d'abord de relations. Il faut avoir des relations assez pointues, assez élevées. Et si vous n'en avez pas, vous n'allez pas pénétrer ces petits carrés-là de sous-traitance. Tandis que ce que dit notre ami, toujours Steve, lorsqu'il parle de salaire qu'on accorde aux expatriés, il a même donné...
Il dit des extraits qui balayent même les...
Oui, oui, les voies publiques, ce qui n'est pas normal. Même le code du travail ne peut pas, dans ses dispositions, tolérer de tels actes. Mais il se fait que c'est une réalité qu'on vit qui est en train de violer même les dispositions légales et même réglementaires. Et à ce qui concerne le salaire, il vous donne ici le rapport de 1 sur 30. Le salaire d'un expatrié vaut 30 Congolais. Donc imaginez si ces messieurs-là touchaient 12 000 dollars, ça veut dire en clair que le Congolais, lui, serait dans les 30 dollars par mois.
Mais vous avez dit tout à l'heure que l'État encourage l'initiative privée. Vous avez lu la loi tout à l'heure.
Oui, mais ça c'est théorique. Vous ne suivez pas lorsque Ilunga parle de la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire, la loi est là, peut-être pour faire plaisir aux gens et à la communauté internationale, mais dans l'application, on est totalement opposé même à cette disposition-là.
Et par rapport au petit commerce, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain?
Oui, en tout cas, c'est pas dans une émission comme celle-ci qu'on pourra tout finir, mais il y a des cas assez frappants. Prenons le cas du petit commerce. Quand vous circulez dans une ville comme Kinshasa, le petit commerce tenu par les expatriés, il y en a qui travaillent même le jour où l'État considère que c'est un jour de repos hebdomadaire, c'est-à-dire le dimanche. Vous verrez de boutiques ou de magasins tenus par ces expatriés-là qui ouvrent de 8h à 20h. Et les Congolais qui travaillent là-bas, ils commencent son boulot le lundi jusqu'au dimanche sans repos. Et pourtant, ces messieurs-là, ces Congolais, ont droit au repos. Et par contre, le magasin d'à côté, du Congolais, il est fermé parce que c'est un dimanche. Et pourquoi l'expatrié ne peut pas fermer ou ne peut pas respecter les dispositions légales? Ça, c'est le petit commerce. Et vous verrez, il y a eu même, vous vous souviendrez, cher ami journaliste, à un certain moment, les Congolais ont même fait de marche, dit voilà, comment se fait-il que nous vendons en détail pendant que les expatriés aussi vendent en détail? C'est ce qui ne peut pas se faire.
Est-ce qu'ils continuent à vendre en détail ou bien?
Oui, mais ils ont changé.
Généralement, les expatriés sont des grossistes.
Bien sûr, mais ils ont changé de stratégie. C'est-à-dire, quand ils vendent en détail, ils vous disent par exemple 6 pièces, 5 pièces, ou quand ils vendent une seule pièce, on ne vous donne pas la facture. Or, la TVA de l'État est supposée liée à la vente de cet article-là. Et en ce moment-là, c'est l'État qui perd. À supposer qu'on a vendu par pièce 10 fois l'avant midi, et à la fin de la journée, on peut vendre 50 pièces comme ça. Et ça fait un manque à gagner pour l'État congolais.
Jean Namboche nous appelle de Kolwezi. Dieu merci Kabila, et à Manono. Jean Namboche, bonjour.
Oui, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Kabila.
On vous écoute, Jean Namboche.
Voilà, j'ai une préoccupation vraiment très alarmante. Hein.
Oui.
J'ai dans mes mains, ici même, un bulletin de paye d'un expatrié qui travaille ici à Colosie dans une entreprise que je ne sais pas citer les noms. Ils effectuent le même boulot avec mes frères congolais. Donc, ça c'est un boulot de maintenance. Ils sont, ils font la soudure et autres. Et ce bulletin de cet expatrié est à 2 000 dollars de salaire. Mais mon frère congolais lui, on est en train de le payer $300, mais mon cher Jody, ça c'est quelle injustice. En tout cas, il faut que notre gouvernement puisse taper la main sur la table pour remédier à la situation. Parce que c'est pas vraiment normal. Imaginez-vous quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui n'est pas expert que nos frères congolais, ils effectuent le même boulot. Ils reçoivent $2000 comme salaire. Mais nos frères congolais, qui sont aussi compétents comme cet expatrié, ils sont en train d'effectuer le même boulot que cet expatrié. Mais on lui donne $300 de salaire. C'est vrai, nous avons des lois qui sont votées, bien beau à écouter, mais sur le plan applicabilité, rien.
Merci. Donc, nous demandons... D'accord. Pardon? Merci Jean Dambosch pour cette intervention. Nous avons Dieu merci Kabila en ligne depuis Manono. Dieu merci, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de la protection des métiers réservés aux nationaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, moi je ne peux même pas comprendre ces journalistes. Je me pose cette fois des questions si les textes votés dans notre pays sont là pour vraiment pour faire plaisir, comme l'invité l'a dit, à la communauté internationale. En fait, c'est vraiment... moi je me pose même des questions des droits de l'homme. Les droits de l'homme, pour comme le premier temps que j'ai raté pour votre première émission, le capitaine service. Je me demande, les droits de l'homme est taxé seulement sur le cas des viols parce qu'il y a d'intérêt. Au fait, pour d'autres choses, il n'y en a pas. Voilà la question que je me pose et je ne trouve pas de réponse avec moi-même. Mais mon problème, c'est quoi? Ça, c'est un thème très vraiment crucial. Vous vous rendez compte que c'est dans une même ONG. Un étranger travaille avec un Congolais. Mais vous vous posez des questions, il signe si les listes de paix différentes. Si les listes de paix différentes. Ça, c'est la liste vraiment réservée aux nationaux. Ça, c'est la liste réservée aux expatriés. Ça, c'est le premier problème. Deux, c'est par rapport au petit commerce. Mais je me pose des questions. Ce sont ces étrangers-là qui devraient être imposés par le gouvernement congolais d'amener leurs marchandises et les Congolais payent le marchandise afin de revendre avec bénéfice. Mais c'est tout un problème. Vous trouvez le pain chez un Congolais, c'est 20 000 francs. Chez l'autre. Parfois, c'est même cet expatrié-là, il n'a même pas de différence. Parfois, il va même parce qu'il a ses propres véhicules, vous allez la trouver, il va même compliquer la formule à ses nationaux qui vendent au même dans le même milieu, ou bien qui ont installé leurs activités dans le même milieu que lui. Voilà, l'État congolais, pour tout ça, regarde où. Hein, où se passe maintenant l'autorité de l'État par rapport à ces étrangers. C'est un étranger qui va s'installer dans notre pays, il devient chef de tous les Congolais. S'il occupe une partie de la terre congolaise, c'est là où il est chef. Il est intouchable, personne ne parle de lui, personne ne... Vous voyez que tout ça, ça demande aussi de la responsabilité de l'État congolais.
Merci
ça,
Dieu, merci.
C'est vraiment un constat très amer dans notre... Je n'ai pas encore terminé, je termine par donner un autre témoignage.
Non, Dieu
imaginez-vous,
merci.
Oui.
On n'a plus assez de temps, alors soyez bref parce que les autres attendent. Soyez bref.
Oh oui, s'il vous plaît. Oui, je termine déjà. Vous trouvez, c'est un milieu du travail pour terminer. Un milieu du travail, je vous dis, il y a là où je vis, de mes propres yeux, quelqu'un qui a travaillé avec un expatrié là, il est tombé de l'arbre, là où il était demandé par ce monsieur pour travailler sur cet expatrié là. Il est tombé, amené à l'hôpital. Ce monsieur vraiment a tout négligé. Le monsieur n'a pas été soigné, n'a pas été assisté. Vous ne voyez pas que tout ça aussi, c'est le non-respect de la loi du travail pour notre pays. Voilà, nous demandons seulement, de grâce, nous demandons à l'État congolais de prendre ses responsabilités afin de donner des valeurs aussi aux nationaux. Que donner des valeurs aux étrangers. Nous sommes les propriétaires de la terre.
Merci.
Mais nous devons aussi tirer parti de ce qui vient de notre terre.
Merci. Merci. Ingénieur Singhi, vous êtes à Kindu, Mwamba, vous nous appelez de Kamina. Ingénieur Singhi, bonjour.
Non, c'est ingénieur Serge Kingi à Kindu.
Serge Kingi, c'est Tati qui a écorché votre nom. Alors, nous parlons de la protection des métiers réservés aux nationaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
En tout cas, avec le thème du jour, je suis en train de pleurer avec ça. Ce qui se passe aujourd'hui, bon, j'ai un camp auquel je voulais montrer à l'invité. J'aimerais dire ceci. Pourquoi notre État congolais nous néglige, nous qui sommes les autochtones du pays, nous qui avons étudié ici? Pourquoi il nous décourage, nous? C'est pourquoi je vous assure aujourd'hui, je dis Daniel Kachama, il y a usurpation de fonction. Je vous assure, j'ai vu un cas... Là où on engageait un ingénieur agro-vétérinaire, Maintenant, aujourd'hui, c'est un médecin qui a fait la médecine, qui travaille dans cette place-là. Et c'est pourquoi vous verrez, aujourd'hui, nous commençons à vendre quelque chose. Nous devenons des commerçants au moment où notre fonction ne correspond pas à la tâche auquel on est annexé. J'aimerais que l'invité puisse nous éclaircir et nous donner aussi du courage et nous donner des instructions pour nous encourager, nous qui sommes en train d'être négligés par notre État. Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Merci. Protection des métiers réservés aux nationaux. Mwamba, vous êtes à Kamina, hein? Bonjour. Mwamba, vous êtes à Kamina, bonjour. Voilà, Mwamba n'est plus en ligne. Oui, ah, il est là. On vous écoute, Mwamba.
Oui, je dis ceci.
Oui, parlez un peu.
Par rapport avec ce que nous sommes en train de constater ici,
oui.
Il y a un proverbe qui dit si vous ne faites pas de la politique, la politique se soucera de vous. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? Si nous n'ouvrons pas les yeux nous-mêmes nationaux pour exécuter certains travaux, alors les expatriés peuvent facilement venir nous profiter parce que nous fermons les yeux là où nous devons travailler. C'est pourquoi nous devons seulement ouvrir les yeux. Et qu'il y aura les interventions, nous devons seulement ouvrir les yeux et faire ce qui nous concerne, et ce qui ne nous concerne pas sera alors réservé aux expatriés.
Merci. D'accord. Merci beaucoup. Nous parlons de la protection des métiers réservés aux petits métiers réservés aux nationaux, particulièrement le petit commerce, l'artisanat, l'art. Clément Daye, vous êtes à Kananga, bonjour.
Merci à notre invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Clément?
Je voudrais juste demander à notre invité, par rapport à la façon dont nos marchés sont envahis par les expatriés. Alors, je voudrais lui demander, puisqu'il y a des fois que nous voyons quelqu'un qui n'est pas réellement national, mais il est beaucoup respecté, malgré qu'il ne donne pas du bon travail, mais il est honoré, respecté. Et parfois, on néglige les nationaux en train d'être injuriés, maltraités. Et pourquoi il n'y a pas certaines lois qui peuvent normalement donner des limites à ces qui aient de la valeur, que ce soit aux expatriés, soit aux nationaux? C'est la première des questions. La deuxième des questions, pourquoi réellement on peut avoir parfois les complexes d'infériorité au lieu à ce que les tâches soient accordées aux nationaux, mais vous voyez, on néglige les nationaux pour que certaines tâches soient normalement accordées aux expatriés. Qu'est-ce qui est réellement à la base? Pourquoi on peut avoir ce complexe d'infériorité-là? Que l'invité nous explique vraiment pour que nous puissions avoir la bonne précision et surtout la meilleure compréhension. Merci, Jody.
Bien. Ndoumba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Ndoumba.
Oui, je voulais aussi intervenir sur ce point.
Oui.
Oui, je relève, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que nous, Congolais, nous sommes trahis des fois par nos dirigeants, parce qu'il y a de ces gens là-bas nos dirigeants, qui détiennent très souvent, eux, des sous-traitants dans des grandes sociétés. Et maintenant, pour cacher leurs actions, ils aiment bien œuvrer avec les étrangers qu'avec les nationaux. Ça, c'est le premier problème. Maintenant, je peux aussi parler dans le secteur de l'artisanat. Dans l'artisanat, il y a un problème, c'est que les Congolais aussi, il a une erreur parce qu'il ne veut jamais travailler dans la légalité. Il ne paye pas les taxes. Il travaille dans ce que nous appelons l'informel. Et dans ces cas, pour que l'État puisse vraiment protéger ce petit métier là-bas, ça devient un peu difficile. Moi, je pense que les Congolais devraient aussi apprendre à travailler légalement en suivant toutes les formalités de l'État. En ce moment-là, s'il y a des dérapages, ils peuvent voir comment ils peuvent se plaindre. Mais je pense que, je ne dis pas que nous avons toujours tort, mais c'est l'État aussi qui doit voir, parce que vous allez voir, j'ai remarqué ici à Lubumbashi. Vous allez voir que toutes les grandes boulangeries sont détenues par les étrangers. Ce n'est pas mauvais. Je pense que les Congolais devraient aussi être compétitifs. Mais pour être compétitif, l'État doit aussi donner des crédits aux petits Congolais qui veulent investir dans d'autres domaines, dans l'artisanat. C'est aussi un pouvoir, c'est un secteur qui peut aussi pouvoir beaucoup d'emplois. Il y a la couture, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Moi également, je l'ai fait. Mais nous sommes totalement délaissés. Je pense que l'État peut nous aider pour que nous puissions aussi faire concurrence à ces grands qui viennent avec des grands fonds à de l'étranger et qui investissent dans le pays.
D'accord, merci.
Je pense que c'est comme ça qu'on peut nous protéger. Oui.
D'accord, merci Ndumba de Lubumbashi. Ingénieur Ignace, vous avez suivi tous ces compatriotes à travers le pays qui se sont exprimés. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
D'abord... il est vrai que tous ces compatriotes, que ce soit ceux de Kolwezi, Kabina, Kindu, Kananga et Lubumbashi, vous sentez qu'ils ont le même problème. Et comme c'est un problème commun, et c'est certain qu'il faut qu'il y ait des mesures assez communes pour avoir des solutions communes. Et je commencerai par juste un rappel concernant Jean d'Embauche de Kolwezi. Il a parlé de l'écart de salaire. Ça, c'est un problème purement criant, que ce soit dans le secteur privé, purement privé, ou dans des organismes non gouvernementaux, généralement appelés les ONG. Ce sont des cas très vivants et très réels. Et nous pensons que ça, c'est la loi qui doit, en tout cas, mettre fin à de tels genres de comportements pour que le Congolais salarié soit véritablement protégé. Monsieur, Dieu merci, Kabila, qui est au Maniema,
à Manono,
oui, lui a insisté sur le comportement de nos législateurs qui votent de lois, mais dont l'application est un problème. Ça, c'est vraiment une maladie de notre pays.
Par exemple, par rapport à vous venez de lire un article là, dans la Constitution par rapport à la protection des métiers exercés par les nationaux. Mais est-ce qu'il y a eu des mesures d'encadrement?
Oui, au-delà même de mesures d'encadrement. D'abord, la loi elle-même, on dit la loi fixe les modalités d'exercice de ces droits. La Constitution reconnaît que c'est un droit et la loi est là, mais l'application, ou ce qu'on dit, les mesures d'application. C'est là où il y a le vrai problème. Donc, on n'applique rien.
Mais où sont ces mesures d'application? Est-ce qu'il y a, des textes qui ont...
Oui, mais ce n'est même pas vulgarisé.
Mais il y en a.
Oui, il y en a.
Mais s'il y en a, vous aurez dû les amener ici parce que...
Oui, peut-être à la prochaine occasion. Oui. Mais on va donner un petit exemple concernant justement cet aspect de salaire. Vous voyez que les inspecteurs du travail, ils ont une grande mission. En tant qu'inspecteur et contrôleur de conditions de travail, ces aspects-là le concernent. Ce sont eux qui devraient savoir comment, dans une même entreprise, vous avez deux cadres, que ce soit des cadres formés à l'université ou par l'entreprise elle-même, qu'ils soient étrangers ou nationaux, mais ils doivent bénéficier de mêmes droits, de conditions de salaire, de conditions
voilà,
de...
Là, c'est un autre cas. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des petits métiers.
Oui.
Alors, on a parlé du petit commerce, l'artisanat et l'art. Alors, par rapport à tout ça, il y a un auditeur qui a dit, il ne faut pas qu'on continue à se plaindre.
Oui, oui.
Mais on doit aussi être compétitif.
Oui, je vais en arriver. Tandis que lorsqu'on parle, l'État regarde où, ça, ce n'est pas à nous de répondre. C'est l'État qui devrait répondre à une telle question. Donc l'État devrait organiser des consultations pour voir à quel degré tout ce qu'il a mis comme loi ou mesure d'encadrement est exécuté. Et à notre cher ami l'ingénieur Serge Kingi de Kindu, lui, il parle de...
Il est ingénieur agro-vétérinaire.
C'est un agronome.
Un agronome,
puisqu'il a été choqué qu'en lieu et place d'un ingénieur vétérinaire, on a engagé un médecin. Ça, c'est un cas flagrant. Et là, je profite pour dire que ici, même à Kinshasa, vous pouvez aller vérifier, il y a des expatriés qui sont venus dans leur carte de travail comme étranger. Il est médecin. Mais aujourd'hui, il n'exerce plus cette profession. Il est devenu plus quelqu'un qui est dans le métier. Alors là, c'est vraiment compliqué. Mmh. Ah, c'est vraiment compliqué et c'est regrettable même. Tandis que Mwamba, qui est à Kamina, lui dit que si vous ne vous occupez pas dans la politique s'occupera de vous. Moi, je crois que c'est plus un cas de conscience. Mmh. Mais notre ami Ndumba, qui est à Lubumbashi, lorsqu'il parle de l'artisanat, D'abord, il faut retenir que l'artisanat n'a pas une loi particulière. Tout ce qui est artisanat dans notre pays est dans l'informel. En bon français, il faut dire que ce sont des activités non structurées.
L'artisanat.
Oui, oui.
Quand on parle de l'artisanat, on pense à quoi, généralement?
Oui, l'artisanat, il faut distinguer qu'il y a trois types d'artisanat. Vous avez l'artisanat d'art, de production et de service. L'artisanat d'art, vous avez tout ce qui est lié à la beauté. Par exemple, on peut parler de la coiffure. Ça, c'est l'artisanat d'art. Mmh. De production, vous avez, par exemple, la cordonnerie. Hein? Ils produisent, ils sont toujours dans l'artisanat. Mais ce qu'il dit là est correct. C'est-à-dire... Le Congolais doit être compétitif.
Un instant, on va accueillir Valérie Dehou de Mbandaka. Bonjour Valérie. Valérie, vous êtes à Mbandaka, bonjour. On vous écoute. Hein.
Ouais, ok. Bon, j'ai une petite question à poser à notre invité.
Oui.
Ouais, j'essaie de savoir quel mécanisme à mettre en place pour remédier à ces fléaux. Puisque j'estime que la part des responsabilités ne compte pas seulement à l'État, mais il y a aussi les gouvernés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait ensemble donc l'applicabilité effective de ces lois?
D'accord. Merci à Valérie Dehou de Mbandaka, ingénieur Ignace.
Oui, oui. Valérie, s'il vous plaît, je vais vous répondre, mais un instant que je termine ce que disait notre ami... Mwamba, plutôt...
Ndumba de Lubumbashi.
Ndumba de Lubumbashi. Donc, il a parfaitement raison, parce qu'aujourd'hui, avec le ministère de Petites Moyennes Entreprises et Classes Moyennes, il est vrai que le PME, elles sont des entités qui sont organisées. Mmh. Tandis que l'artisanat, c'est là où il y a le problème, parce que eux, ils sont plus dans le formel. Ils ne veulent pas aller... formalisé au guichet unique pour obtenir le document légal et être répertorié par l'État congolais de manière à ce que lorsqu'ils ont des problèmes financiers pour aller dans une institution financière, mais vous devez avoir des documents légaux. C'est en ce moment-là que la banque vous fait confiance ou l'institution de microfinance pour vous allouer un crédit. Et dès lors que vous avez un crédit, cela ne veut pas dire que vous êtes solvable. Et encore, votre entité devra produire pour que vous soyez en mesure de rembourser l'argent qui vous a été prêté. Donc, à ce niveau-là, il a pleinement raison. La plupart des Congolais ne veulent pas travailler dans la légalité et nous sommes là, nous, en tant que fédération, nous sommes en train d'organiser le petit métier, le corps de métier en filière pour qu'ils arrivent non seulement à se structurer, à s'organiser, mais en faisant de statuts et de règlements qui les amènent dans une situation régulière vis-à-vis de l'État. Alors, quant à Valérie, lorsqu'il pose la question « Quel est le mécanisme à mettre en place pour supplier à ces fléaux-là » c'est-à-dire le fléau des déséquilibres entre l'utilisation des expatriés et des nationaux, moi, je crois que la première chose, la plus importante, c'est la loi. Là, on ne peut pas aller à côté. C'est la loi qui réglemente et c'est la loi qui doit être sévère vis-à-vis de tout le monde, que ce soit les étrangers ou les nationaux. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est de un. Et de deux, nous, en tant qu'organisation professionnelle ou tous ceux qui sont dans la société civile, ils doivent faire un effort pour sensibiliser davantage les différents professionnels, les différents corps de métier, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent d'abord s'organiser, être connus par l'État. On doit pouvoir recenser tous ceux qui sont dans les différents corps de métier. Le pays doit savoir que s'il a 10 000 maçons à travers le pays...
Est-ce que les maçons sont maçons, par exemple, organisés? Est-ce qu'il y a des associations des maçons ici en RDC?
Oui, c'est ce que je suis en train de dire, cher ami. Donc, l'État doit savoir qu'il a autant de maçons sur l'ensemble du pays. Puisque vous vous rendez compte avec la régie de grands travaux, ces travaux-là ont été planifiés. Et pour lancer les différents travaux, en fait, le pays doit savoir que j'ai autant de maçons, disons, la capacité de la main-d'œuvre. À ce moment-là, vous lancez un programme.
Mais est-ce qu'ils sont organisés, les maçons? Est-ce qu'ils ont des structures qui les fédèrent?
Ah non, c'est là la vraie paire de manches.
Oui.
Donc, le maçon, pour eux, ils sont peut-être dans des mutualités. mais des organisations, des structures légales m'ont reconnu. À mon avis, non.
Les cordonniers non plus, ils n'ont pas de...
C'est là, ils ont des associations d'ordre culturel, mais des associations professionnelles, c'est différent. Ils n'en ont pas. Et nous sommes en train, nous, en tant que fédération, de...
Ou les vendeurs des produits en détail, au grand marché ou ailleurs, ils sont organisés.
Mais c'est ça.
Sont-ils
c'est
organisés?
C'est ça. C'est cette manque de culture. De structuration, d'organisation qui répondent aux normes légales. Parce qu'aujourd'hui, vous aviez vu à un moment donné, il y a 10 ans, tout le monde s'était jeté dans les ONG. Et comme les ONG sont en train de perdre justement leur source laitière, mais la plupart ont abandonné les ONG, ils sont plus dans le trafic, il y en a qui vont, et on ne fait pas la publicité de Loufou ici, vous verrez que tous sont allés à Loufou étant donné...
Vers l'Angola, la frontière.
Voilà, ils se sont totalement démarqués des ONG pendant qu'ils ont des papiers dans leur mallette. Et pourtant...
Qu'est-ce qu'ils vont faire à Loufou, acheter des produits, venir les vendre ici?
À Kinshasa, c'est le petit commerce.
C'est le petit commerce.
C'est le petit commerce. Il y en a qui paient des produits alimentaires, d'autres des produits non alimentaires, mais pour autant qu'ils aient leurs bénéfices.
D'accord. Mwamba nous appelle de Kambove. Mwamba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Mwamba.
Oui, votre émission est très intéressante. Je voudrais placer un mot.
Allez-y.
Oui, par rapport au petit métier, notre gouvernement, notre législation a déjà défini les métiers qu'un étranger ne peut pas exercer dans son pays. Et son application est vérifiée par les inspecteurs du travail. Mais c'est à ce niveau qu'il y a le problème. Ils n'ont pas le moyen de transport, ils n'ont pas le salaire conséquent, et parfois ils sont soudoyés par les mêmes responsables des petits emplois. Alors que voulez-vous que cela se réalise? Autant payer correctement les inspecteurs du travail, les motiver, leur donner le moyen de déplacement, ils peuvent faire appliquer la loi. C'était ça ma contribution.
Merci Mwamba de Kambove, ingénieur Ignace.
Oui, ce sont des réalités. Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ne sont pas là pour simplement veiller à ce qui doit se passer dans une entreprise, mais en tant qu'agents et fonctionnaires de l'État, ils ont cette obligation-là. C'est une obligation.
Même par rapport aux petits, métiers. Donc, ils devaient descendre à chaque chantier pour aller voir les maçons qui travaillent là-bas. Sont-ils des Congolais ou pas?
Oui, dans des conditions de travail, à part l'origine de ces travailleurs, mais il y a aussi les conditions de travail. Parce que la loi leur donne ce pouvoir-là de contrôler les jours comme la nuit. Ça, c'est aussi un aspect très important que notre ami Mwamba a soulevé. Les inspecteurs et contrôleurs ont l'obligation d'aller dans les entreprises, dans les chantiers, les jours comme la nuit. Et vous verrez ici dans...
Pour vérifier aussi par rapport aux conditions de travail.
Conditions de travail, l'hygiène du travail, tout ce que vous voulez là. Mais vous verrez que l'aspect du travail de nuit est tellement négligé. Parce qu'il y a même des expatriés qui ferment la porte de leur usine la nuit. Ils ne veulent pas voir les inspecteurs. Et pourtant, ils ont droit, ils ont le pouvoir légal de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dedans, dans cette entité de production. Ouais.
Alors, on retient que pour protéger les métiers réservés aux nationaux, vous avez dit, il faut d'abord que les artisans s'organisent
en
association, qu'ils aient les documents.
Oui.
Par exemple, on peut avoir l'association de tous les cordonniers. Ils sont organisés, ils ont les documents. Mais est-ce que vous les aidez en tant que fédération à des techniciens multisectoriels? Quel est votre rapport par rapport à ça? Est-ce que vous les aidez qu'est-ce que vous faites?
Oui. En fait, nous, le grand souci, c'était celui-là. C'est-à-dire mener des études, défendre les droits de tout travailleur, de tout technicien, de manière à ce qu'il puisse être à l'aise dans l'exercice de son travail. Et c'est à ce niveau-là que le cas de cordonnier, il est très plausible. Nous les avons plusieurs fois réunis. Avant la tenue de l'édition foraine qui venait de s'achever, nous avons organisé 3 assemblées générales où il y a eu tous les corps de métier. Et principalement le cordonnier, ceux de la ville de Kinshasa, et nous les avons amenés juste à ce qu'ils créent d'abord leur propre structure qu'ils ont appelée la Fédération des travailleurs de coordonnées du Congo, la FTCC, qui est membre de la Fédération des techniciens multisectoriels.
Et les pousse-pousseurs, ils sont également organisés.
Oui, cher ami, je vous dis, c'est un grand travail. Et je peux vous montrer après cette émission la grille que nous avons déjà planifiée pour que d'ici la fin de ces derniers trimestres de 2015, nous aurons des assemblées générales pour les différents corps de métier qui restent et il y a le cas de ceux qui sont dans le secteur de l'aluminium. Ça, si on doit toucher, vous verrez que toutes les grandes constructions actuellement en ville ou à la cité, vous verrez que l'aluminium, que ce soit en termes de portes ou de fenêtres, c'est ce qui rapporte.
Et actuellement.
Et là.
Et il y a beaucoup d'étrangers là-dedans.
Ils ont le pied dedans. À tel point qu'ils ne dorment même plus. Ils arrachent tous les chantiers. Au détriment des Congolais.
Au détriment des Congolais. Faut-il continuer à se plaindre ou il faut faire quelque chose, bien que les gens jettent la balle au gouvernement, les gouvernements ne nous protègent pas. Mais qu'est-ce que, à notre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, c'est la question.
Pour devenir compétitif, il y a un auditeur, mais je crois, Mwamba, qui a parlé de cela.
Oui, Mwamba de Lubumbashi. Il faut devenir compétitif et ils sont plus, ils travaillent en solo. La plupart des travailleurs dans le secteur d'aluminium. C'est comme ça que nous les
avons. Or, les étrangers sont solidaires.
Très solidaires. Ils ont même des petites entreprises qui ont des documents légaux. Tandis que pour nos compatriotes, le drame, c'est celui-là. On ne sait pas.
On n'est pas solidaires.
On n'est pas solidaires et ils ne sont pas structurés. Ils ne sont pas structurés et c'est le travail que nous sommes en train de faire pour les amener à cette structuration et devenir assez compétitifs et avoir de grands marchés.
Bien, merci, ingénieur Ignace Boya Bizarrico, secrétaire général de la Fédération des techniciens multisectoriels. Bonne journée.
Merci à vous aussi.